L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Green Africa. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les faits marquants de l'actualité verte en Afrique durant ces deux dernières semaines. Dans la deuxième partie de ce numéro, nous serons avec le Gabonais Kevin Ela Ekabane, spécialiste en évaluation de la vulnérabilité et des risques liés au changement climatique. Ensemble, nous évoquerons l'accord conclu à Dubaï lors de la COP28. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, place à Green Info. Je vous le disais, la COP28 qui s'est tenue à Dubaï s'est achevée sur un accord qui appelle à une transition vers la sortie des énergies fossiles malgré la résistance des principaux producteurs de pétrole au niveau continental. Il s'agit maintenant de s'assurer que les engagements financiers soutiennent les défis climatiques propres à l'Afrique. Le liquide si précieux se fait rare en Tunisie. Alors, le pays qui veut augmenter ses hectares de terres arables mise sur le traitement des eaux usées. Pour soutenir cette démarche, la Banque africaine de développement a octroyé un prêt de 81,9 millions d'euros à Tunis. C'était tout pour Green Info et nous sommes maintenant avec notre invité, le Gabonais Kevin Ela Ekabane, spécialiste en évaluation de la vulnérabilité et des risques liés au changement climatique. Kevin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, l'accord conclu à la COP28 appelle à une transition vers la sortie des énergies fossiles. Quelle est votre évaluation de cet accord pour l'Afrique en particulier en ce qui concerne la transition vers des énergies plus propres?
Déjà, on peut qualifier cet accord d'historique pour le monde entier, car c'est la toute première fois que l'on mentionne la sortie clairement des énergies fossiles lors d'un accord d'une COP. Déjà à la COP 27 et à la COP 26, on n'en parlait pas officiellement. Mais pour l'Afrique, en réalité, ce n'est pas une grande avancée parce qu'aujourd'hui, on le rappelle tout le temps, l'Afrique ne pollue pas beaucoup par rapport à son énergie. L'Afrique attendait des mesures fortes sur le financement de son adaptation, l'éclaircissement sur les mécanismes du marché et du crédit du carbone et le financement réel et conséquent du fonds des pertes et dommages.
D'accord. Et exactement, quelles sont les limites de cet accord, de la COP28, en ce qui concerne la prise en compte des défis spécifiques aux pays africains en matière de changement climatique aujourd'hui?
Voilà, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une faible mention déjà sur le financement de l'adaptation au changement climatique. Mmh. Et aussi, il y a eu tellement de promesses dans différentes COP. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de COP en COP, nous allons de promesse en promesse, mais rien n'est fait réellement. Nous avons créé un fonds de pertes et dommages, certes, c'est une grande avancée, mais son financement est déplorable parce qu'aujourd'hui, les promesses, rien que les promesses, se chiffrent à 700 millions de francs CFA. Là, nous sommes aux promesses, mais nous ne sommes pas encore au financement réel. Mmh. Et aussi, l'une des limites, c'est l'opacité qui existe toujours sur le marché du crédit carbone. Car les forêts de l'Afrique, notamment la forêt du bassin du Congo, elles séquestrent des millions de tonnes de carbone par an. Mais pendant cette COP, on n'a pas eu un éclaircissement sur comment bénéficier de cet argent, en fait, sur le marché du crédit carbone pour les pays africains.
Kevin, on va continuer de parler finances climatiques. Quelles sont aujourd'hui les solutions africaines que vous proposez pour qu'on puisse renforcer l'efficacité des engagements financiers, mais surtout assurer une adaptation adéquate aux défis climatiques propres au continent?
Déjà, pour le continent, il faut multiplier les partenariats d'État à État. Mmh. Déjà, à l'exemple du partenariat signé entre la République du Congo, la France et l'Union européenne, qui avoisine les 50 millions de dollars pour soutenir l'ambition de la République du Congo en faveur de la biodiversité et du climat. Aussi, il faut déjà financer proprement nous-mêmes notre propre adaptation. Donc, on peut aussi inscrire souvent dans les lois de finances des budgets conséquents dédiés à l'adaptation au changement climatique. Et aussi, on peut développer des projets d'adaptation bancables qui devront être financés par les banques africaines de développement. Parce qu'il faut comprendre que l'adaptation, c'est vrai que l'adaptation, c'est pour faire face aux impacts présents et aux impacts futurs. Mais derrière l'adaptation, on peut aussi générer des opportunités. Donc, une adaptation peut nous aider aussi à créer des sources d'emploi pour les Africains.
Et comment envisagez-vous la collaboration entre les nations africaines pour maximiser les avantages des engagements pris à la COP28 et surtout surmonter les obstacles potentiels à la mise en œuvre?
Bon, il faut comprendre que les engagements qui ont été pris seront écrits, retranscrits dans les contributions déterminées au niveau national. Donc ces contributions déterminées au niveau national doivent bénéficier de financement. Et je crois qu'en Afrique, on peut nous-mêmes déjà essayer de financer certains projets d'adaptation qui sont inscrits dans les contributions déterminées au niveau national. Aussi, il faut promouvoir le transfert des technologies entre les pays africains, c'est-à-dire les pays les plus avancés en termes de technologie, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, doivent partager leur expérience avec les autres pays pour permettre cette collaboration. On doit aussi capitaliser sur les expériences internes de chaque pays et aussi développer des initiatives africaines et financées par les banques africaines, à l'exemple de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique qui regroupe 38 pays africains sur 52.
Justement, en parlant d'initiatives propres à l'Afrique, aujourd'hui, face à la résistance des principaux producteurs de pétrole, comment l'Afrique pourra-t-elle surmonter les défis liés à la dépendance aux combustibles fossiles et favoriser une transition vers des sources d'énergie durable?
Comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique pollue moins par son énergie. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une priorité pour l'Afrique parce que les pays du Nord se sont développés en utilisant les combustibles fossiles. Ils se sont enrichis. Aujourd'hui, certains pays africains disent que c'est leur tour aujourd'hui de bénéficier de leurs combustibles fossiles pour s'enrichir et pour se développer. Aujourd'hui, par exemple, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit plus de 2/3 de la population. Mais bon, justement, l'Afrique avait besoin de bénéficier des revenus qui devraient être générés par le marché du crédit carbone pour financer sa transition énergétique. Mais il faut souligner que l'Afrique fait beaucoup d'efforts sur ce point de la transition vers les sources d'énergie renouvelables. À l'exemple du Maroc, par exemple, nous avons le complexe scolaire Nour-Azazet, qui est l'un des plus grands parcs solaires au monde et qui contribue à cette transition énergétique de l'Afrique.
Kevin Ella et Cabane, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.